Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, c'est une émission qui donne la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, sur la dimension du voyage, hein, cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers des partages de vie, à travers des partages d'expériences. Avec moi dans mon salon, Philippe, qu'on va prendre le temps de rencontrer à travers cette émission, à travers ce micro. Philippe, je ne sais pas grand-chose encore de toi, mais je sais que j'ai vu passer une publication sur les réseaux sociaux qui mettait en avant le côté marcheur. Voilà, marcheur, mais pas que, voyageur, tu as toute une vie d'expatrié aussi. Pour être revenu aujourd'hui ici aux sources, hein, tu es d'origine alsacienne. Donc on va prendre le temps dans cette émission de te rencontrer, de savoir un petit peu ce qui t'a amené dans cette mise en mouvement, hein, notamment qu'est la marche, parce que la marche, je crois que tu me parlais de Strasbourg jusqu'à Compostelle, qui ensuite t'a amené au Québec. Enfin, la vie c'est souvent ça, c'est souvent une mise en mouvement qui fait qu'il va se passer des choses et qui vont nous emmener dans une direction ou dans une autre. Donc Philippe, on va reprendre un peu le début. Est-ce que tu peux me dire pour toi ce que représente le voyage et ce que représente la marche?
La marche, c'est de repousser son horizon tout le temps, parce qu'à chaque pas, il peut se passer quelque chose autour de soi, en soi et face à soi. Et la marche, pour moi, c'est un formidable déséquilibre pour retrouver son équilibre. Je suis un marcheur, mon premier pas, comme tout le monde, guidé par les mains du père ou de la maman, et puis un jour, tu pars tout seul. J'ai pas toujours osé le faire, jusqu'au jour où la vie a fait en sorte que je prenne la décision de partir marcher. Mais avant de marcher, j'ai beaucoup couru. J'étais un coureur, j'ai d'abord joué au foot, j'ai couru beaucoup. Et puis un jour, j'ai pris la décision de marcher.
C'est quand même deux choses différentes, on est d'accord, hein. Quand on est coureur ou joueur de foot, c'est quand même sur une durée ponctuelle, on va faire un match avec ses copains et on retourne dans son quotidien. Quand on part marcher sur une durée indéterminée, ça n'a rien à voir. Il y a effectivement le côté physique, l'exercice sportif et physique, mais il y a surtout lâcher prise totale sur ce qui va se passer sur le chemin, où on ne sait pas forcément jusqu'où on va aller, comment va se passer la journée de demain et celle d'après, et ainsi de suite.
Mais en fait... Quand on parle de marche, il y a eu les premières marches, les premières randonnées d'une journée. Mais il me restait quelque chose, moi, à la fin de ces journées-là. Il me manquait quelque chose. Comme si ma journée n'était pas accomplie, parce que je faisais une boucle et je revenais chez moi. Ou je prenais ma voiture, j'allais marcher, puis je remontais dans ma voiture pour rentrer chez moi. Et puis un jour, j'ai pris la décision de partir véritablement sac à dos, tente et gamelle. Alors pourquoi tente et gamelle? Parce que je voulais ne dépendre de personne. En me disant, de toute façon, si au pire je me casse la gueule, je ne m'en prendrai qu'à moi. Et puis en même temps, ne dépendre de personne, c'est de ne pas être obligé de sonner à une porte pour dire « s'il vous plaît, abritez-moi, il pleut ». C'était de vivre véritablement cette expérience de marcheur. Et donc je suis parti de Strasbourg à Paris.
Parle-nous de l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait, hein, tu disais, c'est suite à une histoire de vie, ou suite à, souvent il y a quelque chose qui fait un déclic, hein, qui fait qu'on fait un switch, hein, ou qu'on fait un changement.
En fait, le premier clic, c'est que j'ai toujours écrit, mais j'écrivais pour moi. Donc dans mes sacs à dos, dans mon sac à dos, il y a toujours eu un carnet de marche. Donc en fait, je me suis dit, dans cette période un petit peu troublée professionnellement, sentimentalement, à une époque où je me cherchais aussi, la trentaine, une jeune trentaine, je me demandais quelle était ma vie. J'avais tout respecté, moi, j'avais tout fait bien. J'avais appris un métier, j'avais fait des études, j'avais appris un métier, je travaillais, mais il y avait quelque chose qui me bloquait dans ces multiples travails, dans ces choses-là. Et donc le fait de l'écrire, n'était pas un aboutissement, c'était une réflexion dans l'écriture, mais il me manquait encore quelque chose. Et comme je m'intéressais à la littérature, que je lisais des livres d'aventuriers, Alexandra David Neil, Hilary à l'Everest, Frison Roche en montagne, enfin, etc., tous ces gens qui sont partis marcher, philosophes ou pas, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc j'alternais les courses à pied avec la marche. Et un jour, la journée n'était plus une journée, c'était de partir droit devant. Et parce que j'étais un petit peu peureux, ma première fois, j'ai choisi le canal de la Marne au Rhin comme guide. J'ai longé le canal de la Marne au Rhin et puis la Marne, et j'étais à Paris à pied depuis Strasbourg, en gardant ça pour moi, en n'en parlant pas, en me disant c'est quelques semaines face à moi-même, je garde ça très précieusement et j'essaye d'en ressortir quelque chose. Donc j'ai gratté un peu un carnet et puis je suis arrivé à Paris. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais probablement fait pour être un marcheur longue distance.
Mais la marche, c'est vrai qu'on est souvent seul avec soi-même et on a le temps de se laisser traverser par mille et une pensées. Toi, donc là, si j'entends bien, la marche était une manière de te retrouver, ou en tout cas de faire une sorte de bilan sur où tu en étais dans tes 30 ans. Hein, parce que là, on parle de l'âge de 30 ans, hein, quand tu vas de Strasbourg jusqu'à Paris.
Moi, je pense que je suis déjà quelqu'un qui s'est toujours posé des questions sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'il est, vers où il va et le pourquoi des choses. L'élément déclenchant, c'était probablement de me retrouver un petit peu, de me poser la question de... Peut-être que j'étais à une époque charnière aussi dans ma vie professionnelle, peut-être sûrement aussi dans ma vie sentimentale, on va... Voilà. C'était dans ces on verbalise aujourd'hui en parlant de qualité de vie globale. J'étais dans cette recherche déjà. Je lisais, je me documentais, mais j'avais envie de me mettre en situation pour comprendre le pourquoi. Et puis en lisant les autres, ceux qui avaient déjà écrit sur leur expérience de marche, je voulais peut-être aussi me mettre dans cette situation-là pour le réaliser pour moi, pour le comprendre pour moi. Et ça a été tout simple, ça a été de partir, véritablement de partir, sans but, hormis le fait d'arriver quelque part, mais sans but journalier, en me laissant porter par les pas, en écoutant mon corps et en essayant d'en retrouver un petit peu l'essence par l'écriture.
C'est marrant parce que la marche, finalement, c'est la plus vieille activité de l'humanité. L'homme a toujours été semi-nomade ou nomade. À une époque, on était chasseur-cueilleur, on marchait énormément pour pouvoir s'alimenter, s'abriter. Et petit à petit, on est rentré dans l'ère industrielle, on a commencé à se sédentariser. Et j'ai l'impression que marcher, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais qu'on a oublié ou des fois on a peur de pouvoir de se lancer, alors que on sait tous faire ça.
Oui, la première chose qu'on fait le matin, c'est de mettre les pieds par terre. En sortant de son lit et puis d'avancer. La marche, moi je l'ai, ayant beaucoup lu sur des marcheurs, je me suis aussi intéressé sur les peuples premiers, les fameux marcheurs-cueilleurs, les déplacements, le nomadisme, etc. Et ça me fascine, et ça me fascinait déjà étant petit, mais ça me fascine encore aujourd'hui, ces gens qui partent, qui déplacent le campement, qui suivent leurs animaux, bref. Et donc, en me mettant dans cette situation-là, je suis devenu, d'une certaine façon, un peu nomade. Je cherche encore mon camp de base, voilà, mais j'ai envie de repousser, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de repousser l'horizon. J'ai envie d'aller... Moi, quand je regarde une chaîne de montagnes, j'ai envie d'aller voir au-dessus. Parce que au-dessus, bah, t'as un point de vue sur la suite. Et toujours, j'ai envie de ça, j'aime ça. J'aime, c'est pas repousser mes limites, mais c'est d'aller voir ce qui se passe. Je suis quelqu'un qui pousse la porte pour aller voir. Je ne me pose pas la question avant, savoir est-ce que je vais la pousser, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Je vais voir. Donc la marche, ben je vais voir, je vais au bout du sentier, et puis si le sentier s'arrête au bord d'un précipice, ça m'est déjà arrivé, ben tu fais demi-tour et tu reviens, et tu prends un autre chemin.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'ai Philippe, quand je t'entends, donc je comprends qu'il y a eu plusieurs chapitres de marcheurs, hein, avec des distances plus ou moins longues, sur des temporalités plus ou moins longues aussi. Et j'ai aussi l'impression que chacune de ces marches fait suite à un événement personnel, avec chaque fois un état d'esprit différent, comme si la marche était pour toi une manière de faire une mise au point sur là où tu en es dans ton existence.
Oui, on peut dire ça, vraiment. Que ce soit professionnel, sentimental, d'écriture, etc., j'ai besoin de me retrouver avec un sac sur le dos. C'est très, très particulier. Et puis en même temps, c'est de choisir un lieu de départ. La plupart du temps, si je pars de chez moi, voilà, sauf en 2015 où j'ai atterri à Compostelle dans un état d'épuisement sévère. J'étais en plein burn-out, en plein épuisement, où j'étais chef d'entreprise au Québec, une autre partie de ma vie. Et j'ai atterri à Compostelle et j'ai commencé à marcher depuis Compostelle dans le sens contraire des autres, aller à la rencontre de ceux qui venaient vers moi, qui étaient très nombreux. J'étais seul sur ce chemin dans ce sens-là, à ce moment-là. Et oui, j'étais dans une période de doute, d'épuisement et de ras-le-bol de ma vie. Et j'ai fait le choix de marcher dans ce sens-là, à l'envers. Non pas à l'envers, mais à contresens du courant. Et je crois que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que dans cet esprit nomade qui a été très affirmé à ce moment-là, c'était de faire ce choix de marcher comme je le voulais, là où je le voulais, quand je le voulais et comme je le voulais. Et ça m'a servi, ça m'a permis de revenir et d'en revenir de ce Compostelle-là, mais surtout ça m'a permis d'affirmer mon statut, c'est pas le mot, mais ma réalité d'homme libre, de marcheur, et puis aujourd'hui de marcheur et d'écrivain, parce que j'en suis à mon deuxième roman, j'écris pour d'autres puisque j'écris des biographies, et la marche fait complètement partie de ma vie, complètement.
Tu utilisais le mot libre, liberté, d'homme libre, revient sur le concept de la liberté pour toi et de la marche. En quoi est-ce que la marche permet de se sentir libre?
J'ai appris le sens de la liberté par la marche. Partir marcher longuement, c'est prendre conscience de sa liberté. Mais dans le prendre conscience de sa liberté, c'est surtout, surtout, surtout accepter de vivre avec des contraintes. Parce que quand on part, forcément, et qu'on revient, la valise ou la caisse ou la boîte en carton dans laquelle on a tout empilé, quand on revient, elle est là. Donc pour moi, la liberté, c'est de vivre avec des contraintes et d'accepter ces contraintes-là. Parce qu'on n'est jamais réellement libre. Ça n'existe pas, la liberté, c'est un concept. Ben, ça existe peut-être, mais c'est un concept très diffus. Pour moi, c'est véritablement prendre conscience que j'ai des contraintes, je les accepte pour pouvoir partir. Dans cet esprit de liberté.
Tu peux me parler de ce que tu appelles contrainte? À quoi tu penses quand tu parles de contrainte?
Financière, impôts, administration, etc., etc. Tout ce qui touche autour d'une vie. Ce qu'on accumule ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui n'accumule plus depuis 10 ans, qui vit avec très peu. J'ai fait ce choix, mais les contraintes, elles sont là. J'ai un appartement, donc si demain matin je veux partir 6 mois, 8 mois, 1 an, j'ai toujours doublé mes distances. Je suis passé de 500 à 1000, de 1000 à 1500, de 1500 à 2400 et à 4500 kilomètres en une fois. Donc peut-être qu'un jour je vais en faire 10 000, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tu te départis du matériel pour ne retrouver que ton sac à dos, ta tente et tes gamelles quelque part. Contrainte, j'ai un chien, donc le chien m'accompagne, donc là je pense pour deux aussi parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, enfin etc., etc., etc. Donc pour moi la liberté, elle passe par ça. C'est un concept un peu diffus.
Il y a cette notion aussi, tu disais, donc quand on part, on a des contraintes, quand on revient, les contraintes, on les retrouve. Des fois, quand on part aussi, on part peut-être un peu comme une autruche pour fuir aussi une certaine réalité. Mais les problèmes, on les retrouve aussi, ou est-ce qu'on arrive à les régler sur le chemin?
Lors d'une conférence que je donnais un jour dans une grosse entreprise française, une grande entreprise française, un cadre, enfin une cadre d'entreprise, m'a dit: de toute façon, vous, ce que vous avez fait, vous avez fui. C'est une fuite, ce que vous avez fait, partir et tout lâcher, et partir sur 4500 kilomètres, 172 jours en tant que chef d'entreprise, c'est une fuite. Et j'ai pas eu la réponse tout de suite. Et je me suis permis de dire, je vous redonne de mes nouvelles dans les prochains jours, je vais prendre le temps et je vais écrire. Et en fait, dans la réflexion que je me suis imposée par rapport à ce questionnement, à cette fuite, oui, j'ai fui. Mais il faut beaucoup de courage pour fuir. Et je respecte beaucoup les gens qui fuient, parce qu'il faut du courage pour fuir. Et ce qui m'a permis de dire, quand j'ai vraiment affirmé mon retour de Compostelle, en fait, je me suis sauvé de moi et des autres. Je pense qu'il y a 10 ans, dans l'état où j'étais, si je n'ai pas cet instinct d'homme qui arrive du fond des âges, probablement, de faire le choix de partir, comme je l'ai fait, je me suis sauvé. Je me suis véritablement sauvé de moi et des autres. J'ai vraiment eu besoin de me sauver de moi et des autres. Et je pense que si je ne fais pas ça, je ne suis probablement plus là aujourd'hui pour en parler.
Donc une forme d'acte de guérison aussi que de marcher.
Ah oui, complètement. Complètement. Cet acte-là, il est absolument extraordinaire. Enfin, avec mes moi, il y a des gens très très bien qui ont écrit des livres fantastiques sur l'éloge de la lenteur, l'éloge de la marche, etc. Un psychologue à Strasbourg qui écrit remarquablement bien. Oui, son livre est génial. Cherchez son nom. Oui, c'est ça. Moi, la marche, c'est un. Je sais pas. C'est comme une rédemption, la marche. Mais c'est une rédemption à chaque pas. On renaît à chaque pas parce qu'on l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via des rencontres diverses et variées, qui me disent « Mais comment t'as fait pour partir marcher ?» J'ai fait un premier pas. C'est la seule réponse que je peux donner. Je dirais pas qu'il vaut mieux utiliser telle chaussure ou telle paire de chaussettes ou tel truc ou tel matériel.
De toute façon, on apprend sur le chemin. Une fois qu'on est lancé, qu'on pose un pas devant l'autre, c'est là qu'on va commencer à réajuster au quotidien son itinéraire, mais aussi souvent son sac et le poids de son sac.
Le poids du sac. Mon premier roman, Le poids du sac. Mais c'est surtout ce que ça a amené, en fait, toutes ces longues marches avant ce livre et toutes les marches qu'on suivit après ce livre. C'est la réalité de la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on traîne tout le temps avec soi? Qu'est-ce qu'on essaye de se départir, de s'alléger? Est-ce que c'est pas la réalité d'une vie de s'alléger de tout? Peut-être des contraintes aussi. Mais le poids du sac a été un élément énorme parce que quand j'ai atterri à Compostelle le 29 mars 2015, j'avais ramassé mon sac, moi, en rien de temps, depuis le Québec où j'habitais à ce moment-là. Et j'ai marché 5 km de la cathédrale de Compostelle. Donc, bien sûr, hein, moi, je partais là où d'autres arrivent, où tout le monde arrive. Et j'ai marché 5 km. J'étais dans un état d'épuisement assez avancé. Mais ensuite, j'avais un sac qui était beaucoup trop lourd. J'avais oublié que je savais faire un sac à dos. Et je me suis arrêté dans une petite pension de famille, un truc très sympa. Et pendant des heures, j'ai refait mon sac. J'ai laissé énormément de choses sur le comptoir le matin en repartant. Et j'ai compris avec le temps, avec les journées, avec le regard des autres. Parce que comme je partais de Compostelle, j'avais tous ceux qui arrivaient, qui avaient des étoiles plein les yeux. Moi, j'ai les yeux clairs, mais ils étaient noirs. Là, j'étais fatigué, j'étais au bout du bout. Je m'appuyais sur mon bâton. J'étais dans un drôle d'état, en fait. Et mon sac, subitement, il devenait comme ma vie. Je portais ma vie. Et j'ai appris à l'alléger. Et oui, j'ai marché avec 13 kilos à peu près, et puis 2 litres d'eau. Mais j'ai compris que le poids du sac avait une vraie valeur, pas forcément ajoutée, mais une vraie valeur de libération. Et ça fait aussi partie de cette, peut-être de cette liberté, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a permis d'écrire le poids du sac.
Il y a une phrase qu'on entend souvent entre les pèlerins sur le chemin de Compostelle, je veux bien que tu la commentes, qui dit que le poids du sac représente le poids de nos peurs.
Oui, on entend ça. Le poids, c'est de la peur. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que plus tu charges ton sac, t'as des craintes. Au-delà de la peur, c'est des craintes. Peur de manquer, la crainte. Et aujourd'hui, on apprend à faire son sac parce que le matériel a changé, parce que c'est de plus en plus léger. Et puis il y a beaucoup de gens qui marchent sur une journée, qui déposent, qui prennent un petit sac parce que ils sont en gîte, donc ils n'ont pas apporté la tente, pas apporté les gamelles, pas apporté leur bouffe à part les 3-4 bricoles qu'ils ont besoin pour manger dans la journée, enfin, etc., etc. Quand on part sur de la longue distance, c'est différent. Dire que c'est de la peur, oui, moi j'y crois. Je crois qu'on a toujours trop tendance à en mettre de trop. D'ailleurs, sans parler de poids de sac, vous posez des questions à tous les gens qui reviennent de vacances. Avec leurs valises, ils ont toujours mis plus de choses qu'ils avaient besoin ou qu'ils ont eu besoin lors de leurs vacances. Voilà. Mais est-ce que c'est réellement de la peur? Je pense que oui, dans le cadre de randonnées sur plusieurs jours, semaines ou mois. Je pense qu'on a... Mais ça se règle. On apprend à dealer avec ça. On apprend à en lâcher pas mal. Pas toujours le premier jour, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des choses dans notre sac qui ne nous serviront pas.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qui sont les gens que tu rencontres sur les chemins? Parce que voilà, quand on marche, on est souvent seul. Mais on se rend aussi compte qu'on n'est finalement pas complètement si indépendant que ça. On est souvent interdépendants les uns des autres. Donc qui sont les gens que tu croises sur tes chemins?
Que je croise ou que j'accompagne, que je le mets entre guillemets, que j'ai guéri d'une certaine façon en soignant des ampoules ou en soignant des bobos de pied, c'est toutes sortes de gens. Ceux qui restent il y a ceux qui vont parler de parce qu'ils sentent mauvais, parce qu'ils transpirent, parce qu'ils ont mal. Il y a des rencontres qui sont très éphémères et très surfaites. Et puis il y a les rencontres profondes où on rentre directement dans le cœur de l'homme. L'homme, être humain. Et celles-là, elles font partie de mon bagage. C'est des rencontres que j'oublierai pas, que je n'oublie pas. C'est souvent des rencontres avec lesquelles je suis encore en rencontre tant d'années plus tard, par l'écriture, par l'échange. Ce sont des gens qui, à un moment ou un autre, sur ce chemin ou ces chemins, m'ont appris à être, je crois, véritablement. Pas à devenir, mais à être, à vivre l'instant présent, à vivre la rencontre avec une grande humanité et des échanges qui se font de cœur à cœur plutôt que de tête à tête. J'en ai plein. Je vais en raconter une. Abbaye de Cîteaux, je suis dans le jardin réservé aux gens qui viennent dormir là. Il y a un moine qui vient, qui s'assoit à côté de moi et qui me parle. On se connaît pas, on apprend à se connaître, on se parle. Et en fait, c'était frère Jean-Pierre qui était, c'était en 1998, frère Jean-Pierre était un des deux moines rescapés du monastère de Tibérine. Assassiné, ses frères avaient été assassinés par le GIA.
Tu peux revenir sur cette histoire, je la connais pas, de l'abbaye de Tibérine, qu'est-ce qui s'est passé?
Monastère de Tibérine, c'est dans l'Atlas, c'est en Algérie. Ils étaient 9 moines, il y en avait un qui était parti faire ses courses, il y en a un à faire les courses, il y en a un qui s'est caché. Il y a 7 moines qui ont été enlevés par le groupe islamiste, donc le GIA en Algérie, et ils ont été assassinés, les 7. C'était en 1996. Ça a été terrible. Des gens de foi, des gens de Dieu, des gens qui ne faisaient pas de prosélytisme, qui aidaient toute la population locale. Voilà. Et frère Jean-Pierre est un des rescapés. Et on a parlé du pardon. Et j'ai eu un échange sur le pardon avec lui et je lui ai demandé s'il avait pardonné. Et il a eu un geste absolument extraordinaire. Il a pris ma main, droite. Il l'a refermée. Donc il en a formé un point. Il me l'a posé sur ma cuisse et il m'a dit « c'est ma réponse ». Et il est parti. Il m'a dit au revoir et il est parti. Voilà. Ça fait partie des rencontres de ma vie. comme ce japonais sur le chemin de Compostelle dans les Montes de Oca en plein brouillard qui arrivait face à moi, 80 ans, marchait 12-14 km par jour et qui m'a dit « Tu marches bien mais trop vite, faut prendre ton temps ». Et en partant il m'a dit « Tiens, réfléchis, que fait une seule main qui applaudit ? Quel bruit fait une seule main qui applaudit ?» Enfin, c'est des rencontres comme ça, j'en ai plein. Et puis c'est aussi des gens qui m'ont hébergé, des gens qui m'ont accueilli chez eux. C'est des moments comme ça, ça fait partie de ma vie. Et je m'en sers aussi pour, dans les moments où ça va un petit peu moins bien, ça peut arriver, je me sers aussi de ces rencontres-là pour continuer de marcher, continuer d'écrire, et puis de garder ça bien précieusement dans mon cœur.
Oui, parce que Philippe, on a parlé beaucoup de la marche, mais c'est vrai que tu écris aussi, donc tu écris en marchant. Quelle est l'idée derrière l'écriture ? C'est transmettre ce que tu vis ou pourquoi est-ce que tu écris et qu'est-ce que ça représente pour toi, l'écriture dans la marche ?
C'est, l'écriture, elle vient le soir, moi, après une journée de marche, quand je pars avec mon carnet. C'est ce que j'ai vécu dans la journée, c'est les ressentis, c'est des mots, c'est des suites de mots, c'est des phrases. C'est les mots des uns et des autres qu'on me laisse dans les carnets. Je m'en suis servi un peu, avec parcimonie, dans l'écriture du Poids du Sac. Une part autobiographique par rapport à la situation de Pierre, qui est un chef d'entreprise épuisé, qui décide de partir marcher. Donc je me sers aussi de ces rencontres-là, de tout ça. Et puis l'écriture, c'est pour garder une trace.
C'est vrai que c'est un aspect qu'on a peu abordé encore dans cette rencontre, dans cette émission radio, c'est la spiritualité, c'est la foi. Hein, tu parlais de Compostelle, donc sur Compostelle, c'est quand même un chemin particulier en soi, parce que chacun vient avec une quête différente, mais on y retrouve quand même souvent une quête spirituelle, ou une quête d'essentiel, ou une quête de sens aussi sur ce chemin. Là, tu parles de synchronicité à travers une photo que tu retrouves dans différents bouquins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement des coïncidences, ou des hasards, ou des synchronicités qui font croire que peut-être que quelque chose de plus grand que nous est là et dirige, contrôle, ou je sais pas quel mot employer, en tout cas voilà, quelle est la foi, la spiritualité que tu nourris? Est-ce que la marche a nourri une forme de spiritualité en toi?
Oui, complètement, mais vraiment complètement. Tu parles des chemins de Compostelle, moi j'ai marché sur les chemins de Compostelle de Rome, d'Assise et d'ailleurs, donc et puis même un chemin qui a priori ne mène pas vers un lieu spirituel ou autre, j'ai cette impression souvent, mais pas dans une randonnée d'une journée. Randonnée d'une journée, c'est particulier, mais quand je pars sur plus longtemps, il se passe souvent ou par moment quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Comment l'interpréter, comment la vivre, comment l'intégrer à son raisonnement? J'ai marché avec des gens qui n'étaient pas du tout de la même religion. Moi, je suis catholique, mais je ne pratique pas forcément. J'aime pas trop les effets de manche, moi. Je préfère aller m'installer dans une petite chapelle où il n'y a personne, si j'ai besoin d'aller dans une petite chapelle où il n'y a personne. J'ai marché avec des gens qui étaient d'autres religions, et il y a des échanges extraordinaires sur la religion. Mais je pense que les marcheurs se rendent compte à un moment ou un autre, peut-être, certains, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a eu un moment, j'étais dans une situation où j'avais très froid, j'étais fatigué, j'avais un sac qui était beaucoup trop lourd à une époque, et j'étais sur un bord de falaise, voilà, sur les crêtes vosgiennes, et je me suis dit c'est facile, je fous mon sac en bas, j'en ai marre. Et je venais d'interpeller un petit peu les éléments en disant il pleut, il fait froid, il y a du grésil, j'ai froid, je suis bizarre. T'sais, j'étais dans une situation où je me disais mais qu'est-ce que je fous là, vraiment? Ou en fait je m'engueulais moi, mais j'engueulais les éléments et puis j'interpellais plus grand que moi. En disant mais putain, mais qu'est-ce que tu me fais chier à me foutre tout ça sur le coin du nez, tu veux que j'abandonne? Et à ce moment-là, je me suis assis sur une pierre et j'avais qu'à mettre un coup de pied dans mon sac à dos. Il faisait 300 mètres plus bas et puis je retrouvais la route et je rentrais chez moi en disant bon ben je suis tombé, je me suis fait mal, j'ai perdu mon sac et je rentre quoi. Et j'interpellais vraiment verbalement. Et là, à 5 mètres de moi, sur ma droite, il y a eu un petit trait de lumière, et sur ce trait de lumière, il y avait un oiseau qui s'est mis à chanter et qui est parti en sautillant sur le sentier dans la direction que j'allais entreprendre. Je me suis dit, tiens, je suis entendu, donc je vais continuer. Et j'ai marché 2400 km.
Philippe, merci, merci à toi.
Merci Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.